Alors aujourd'hui, avec un petit peu de retard, excusez-moi, je commande donc les lectures qui sont génialissimes, quoi. Alors en plus, chez les pauvres bénédictins, nous fêtons les saints de l'ordre. Sommes dissidents par rapport à nos frères cisterciens, donc, qui ne fêtent pas ça aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je crois que c'est le 13, mais bon. Et nous avons quand même les lectures de la féerie, donc qui commence par Quo imitator est mei est tote, soyez mes imitateurs. Donc, bon, les esprits mal bouchés diront qu'ils se la pètent. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Ben, il le développe ensuite, hein. Il le développe tout simplement, c'est-à-dire encore une fois la vie verticale. La vie horizontale, pour lui, ça ne présente aucun intérêt. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. La joie, elle vient de ce qu'on pointe vers le haut, dans une vie verticale. Je sais pas, je me suis peut-être trompé de mot tout de suite. Donc la vie horizontale, ça n'a pas d'intérêt. La vie verticale, c'est la seule qui puisse donner du sens à notre vie. Donc c'est beaucoup répété, hein, dans Philippiens. C'est quand même très très récurrent. Le Christ qui est descendu, qui remonte, etc. Enfin, c'est toujours quelque chose de vertical où il y a un va-et-vient vers le monde qui existe mais qu'on ne voit pas. Et qui est surnaturel, et puis le pauvre monde qu'on voit, mais qui est naturel. Bon, la question en train ensuite est de savoir qui vit le plus dans la vérité. Bon, c'est dans la vie surnaturelle qu'on est le plus dans la vérité, puisque dans la vie naturelle, on est souvent dans le mensonge, comme nous en faisons malheureusement l'expérience. Parfois, nous en sommes l'auteur du reste. Donc voilà, donc Paul dit, ben faites comme moi, c'est-à-dire branchez-vous, l'arbre a ses racines dans le ciel, hein, comme l'écrit la petite Thérèse, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, on a un peu la tête en bas, donc c'est assez normal que les autres nous trouvent dans une position bizarre. Mais voilà, c'est vraiment une grande, grande invitation. Non pas à dépasser nos contingences humaines, mais à les vivre avec la tête au-dessus des nuages. Voilà, pas dans les nuages, mais au-dessus des nuages. Sachant que, alors quand on fait ça, on fait l'expérience que Dieu s'occupe de tout. On peut être déçu de quelque chose qui ne s'est pas produit, ça produit même une réaction physique parfois, et puis on se dit, non, non, ok. T'es déçu, très bien, ça marche. Mais Dieu sait. Dieu sait, et il n'est pas impossible que si ça n'ait pas marché, c'est parce que Dieu voudrait mieux. Dieu voudrait autre chose de mieux pour toi. C'est pas toujours vrai, hein, ça peut aussi être les hommes qui sont mauvais et qui refusent, hein, il faut pas. Bon. Mais Dieu est toujours là. Et alors justement, on arrive à l'évangile, qui est un évangile de fou, quoi. Alors, malheureusement, et ça c'est une grande tristesse pour moi, je vois aucune raison pour laquelle ce serait corrigé un jour. Mais tout arrive, hein, tout arrive. Donc, nous avons l'intendant infidèle. Et l'intendant infidèle, eh bien, l'évangile s'arrête dramatiquement au verset 8e, 16:1-8. Alors que on ne peut pas comprendre cet évangile sans aller au verset 9e. C'est le secret de l'évangile, le verset 9e. Donc je vous explique, parce que souvent les gens ne comprennent pas. Sauf si vous avez peut-être très bien compris, hein. D'ailleurs je n'apporte rien du tout, mais voilà. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Ça va jusque-là. Donc il y a un gérant, on ne sait pas ce qu'il fait. Vraisemblablement, il prend plus pour lui que ce qu'il devrait, mais on n'en sait rien. C'est pas. Notez bien que ça n'est pas dit. On ne sait pas quelle est la malhonnêteté du gérant, parce que beaucoup de gens s'imaginent que la malhonnêteté, c'est ce qu'on va dire. C'est-à-dire que voilà, il réduit les dettes. Non, non, mais ça c'est pas malhonnête, ça. Ça n'a rien de malhonnête, ça. À la limite, ce serait presque de la charité si ce n'était pas une recherche avantageuse, voyez. Donc en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Soit dit en passant, au cas où vous n'auriez pas remarqué, ça nous ressemble vachement. Parce que c'est quand même assez rare qu'on fasse ce qui est prévu. Et donc quelqu'un le dénonce. Donc pour nous, ça peut être le diable hein, qui dit eh, dis donc, tu l'as vu lui T'as vu comment il se sucre les fraises au passage? Voilà. Fin de digression. Et donc, le roi le convoque, enfin, l'homme riche le convoque et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Ça va pas du tout, tu vas me rendre des comptes parce que je te faisais confiance. Et manifestement, tu as abusé de ma confiance. Donc les gérants se disent, je vais me faire mettre à la porte. Alors il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas du tout de la malhonnêteté ce qu'il va raconter, hein. Attention, comprenez bien. Il dit, ben voilà, il me retire la gérance, je vais travailler la terre. Enfin, gaulé comme je suis, c'est même pas la peine d'y penser. Je vais mendier. Bon, c'est pas une place très très ambitieuse. Et tout à coup, il se dit, génial, comme disait l'autre dans Astérix, je viens d'avoir une idée immonde. Ben là, elle n'est pas immonde, elle est absolument géniale. Je sais ce que je vais trouver. Je vais faire pour que je trouve des gens pour m'accueillir. Quand je vais être mis à la porte, il y a des gens qui voudront bien me recevoir. Très intéressant. Qui est repris dans la verset 9e, vous allez voir. Et donc voilà, donc il appelle chacun de ceux qui ont des dettes, enfin quelques-uns là, parce que sinon on y serait encore, et il dit, voilà, tu dois combien? Je dois 100 barils d'huile. Bon, 100 barils d'huile, très bien. Et le gérant lui dit, écoute, voilà, tu vas écrire 50. Donc du coup, je dois plus que 50 barils d'huile à mon maître. Ouais. Ah, à ton maître. Ouais, c'est ça, c'est bon. Bon, très bien. Donc il fait son trafic. Il fait la même chose avec un autre qui devait, je sais plus quoi, 100 sacs de blé, 80. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, il est en train de faire une gentillesse à ceux qui ont des dettes envers son maître. Cette gentillesse, on ne sait pas si elle est honnête ou pas, parce que peut-être qu'en fait, il avait le droit de prendre. Imaginez que quand quelqu'un achetait, reprenons les chiffres, hein, 100 barils d'huile, je crois que c'était ça l'histoire, ouais, ben peut-être que lui, il avait le droit de s'en garder 80. Et qu'en fait, il s'en était gardé 50. Vous voyez? C'est une hypothèse, hein. Là je fabule, hein, je ne sais pas. Donc en fait, il dit, écoute, tu donneras à mon maître ce que tu lui devais, et moi ceinture. Ok? Pour les 80, c'était peut-être pareil. 100 sacs de grains, eh ben, il avait le droit de s'en prendre 20 pour lui. C'était sa paie, si vous voulez. Je fais cette hypothèse. Hein. Eh ben, non, non, je renonce à mon truc. Et on arrive à cette phrase, le gérant, trompeur, le maître fit son éloge. Et là, vous vous dites, non, non, attends, il y a un truc qui débloque complètement. C'est qu'on ne voit pas comment Jésus peut faire une parabole pour dire les types qui sont fourbes sont des mecs bien. Vous voyez, ben, ça n'a pas de sens. Sauf s'il n'est pas fourbe. Et si en fait, il a juste renoncé à sa commission. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand il va se faire mettre à la porte? Il va aller voir Duchemol et il va lui dire, dis donc, tu te souviens que j'ai renoncé à ma solde pour toi. Ah oui, c'est vrai, t'as été sympa. Hein. Et l'autre, il va lui dire, dis donc, tu te souviens que j'ai renoncé à mes sacs de blé pour toi. Ah oui, c'est vrai. Et alors l'évangile se finit, les fils de ce monde sont plus habiles que ceux du fils de la lumière. Et on ne comprend rien. Parce qu'il n'y a aucun rapport avec la choucroute. On est en train de dire, on ne sait pas pourquoi le gérant, pourquoi le maître a loué son gérant. Si vous allez à la phrase d'après dans l'évangile, dans Saint-Luc, Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis, comme lui vient de le faire, avec le malhonnête argent. C'est quoi le malhonnête argent? Vous avez déjà réfléchi? L'argent, ça sert à quoi? Ça sert à acheter. Et quand on achète, en théorie, on possède. Jusque-là, ça devrait aller à peu près. Hein. Je parle pas de la bourse parce que j'y connais rien. Hein. Bon. Mais quand j'achète un carambar, en principe, il est à moi. Bon. Enfin, il est à moi jusqu'à ce que je meure. Parce que j'achète une maison, elle est à moi. Mais le jour où vous oubliez de respirer, la maison, elle reste. Donc en fait, cet argent vous a fait croire que vous possédiez quelque chose que vous ne possédez pas du tout. Parce que vous le possédez pour un temps. Vous comprenez bien, il faut vraiment bien comprendre ça. Cet argent, il est malhonnête parce qu'il vous fait croire que vous avez un acquis et vous ne l'avez pas. Quand vous serez dans le trou, il n'y aura pas de château avec vous. Ni de voiture, ni de je sais pas quoi, de smartphone, de gnignigne. Donc, faites-vous des amis avec l'argent qui sert à rien. Eh bien, c'est ce qu'a fait le gérant. Il s'est fait des copains avec l'argent qui est trompeur, quoi, qui ne permet pas vraiment de gagner quelque chose. Et pourquoi il faut se faire des amis avec ces gens-là? Afin qu'au jour où il viendra à manquer, quand est-ce que l'argent va manquer? Eh bien, du côté du purgatoire, figurez-vous, il n'y a pas beaucoup de sous. Ceci vous accueille, où ça? Dans les tentes éternelles. Donc bref, cette parabole, c'est de la pub pour les âmes du purgatoire. Ou qui n'y sont pas encore. Voyez. Mais au fond, on est en train de découvrir dans cet évangile que à chaque fois que vous faites une gentillesse à quelqu'un, le jour où cette personne, si elle meurt avant vous, si elle meurt après, c'est plus compliqué, j'ai pas l'idée encore. Si elle meurt avant vous et que elle se trouve au purgatoire ou pas au purgatoire, vous pourrez toujours lui dire « Eh oh, tu te souviens que je t'ai remis 50 sacs. Tu fais quelque chose pour moi, s'il te plaît. Vous vous êtes fait un ami. » Ça s'appelle la communion des saints, ça. Et c'est pour ça que c'est tellement important de prier pour les âmes du purgatoire, parce que les âmes du purgatoire, c'est comme vous et moi. Ce sont juste des gens qui n'ont pas eu le courage de faire le bon choix au bon moment. Parce qu'ils sont pauvres comme vous et moi. Et du coup, eh ben, au moment de passer au jugement, ils étaient pas prêts, quoi. Excusez-moi de me répéter, probablement comme vous et moi. Donc là, ils sont au purgatoire, ils savent qu'ils sont sauvés, mais il fait chaud, quoi. Et puis, il n'y a pas la ventilation. Hein. La VMC, au purgatoire, ça n'existe pas. Donc, il fait chaud. Et alors, ils peuvent faire quelque chose pour nous, par contre. Ils peuvent faire quelque chose pour nous. Et quand ils sont arrivés au ciel, ils peuvent faire aussi quelque chose pour nous. En disant, c'est pas brillant ce qu'il est en train de faire, mais il m'a fait un tel cadeau. Il faut que je fasse quelque chose pour lui, quoi. Donc, vous voyez, voilà, c'est ça, vivre avec la tête dans le ciel, quoi. Donc, c'est exactement, je trouve, c'est l'illustration de ce que saint Paul a dit. Et moi, cet évangile, je trouve qu'il déchire complètement, quoi. Il est prodigieux, cet évangile. Seulement, encore une fois, on pourrait peut-être faire une neuvaine pour demander que les auteurs de nos coupes liturgiques d'évangile rajoute ce verset qui donne le sens de tout. Alors évidemment, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, un peu beaucoup plus loin, dans les lectionnaires syriaques, ce verset va avec. La parabole, elle n'est pas coupée au verset 8, mais au verset 9. Voilà. Bon, je vous souhaite une super journée, parce que c'est une super nouvelle. Amen.